donc un midrash, il dit que Hachem avait présenté à la Torah tous les tzadikim. Et on parle ici de noces mystiques. Bonsoir. Et la Torah les a tous refusés comme partenaires, en quelque sorte, sauf Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu l'a dit, oui, Moshe, je veux. Alors, on voit que la raison pour laquelle la Torah n'a pas voulu d'Adam Harishon, c'est évidemment parce qu'il a fait la faute qu'il a faite. Mais si on analyse, on voit que si Adam n'avait pas fauté, la Torah était d'accord de faire couple avec Adam. Et alors la question qui se pose, Adam Harishon, avant la faute, donc, il est à un degré de perfection absolument faramineux. Et du coup, on peut se demander, qu'est-ce qui lui manque à Adam pour que la Torah puisse le lui apporter? C'est quoi ce couple? Un couple où Adam a tout et qu'est-ce que la Torah va lui apporter? Il est parfait, non? Et qu'est-ce qu'il y a dans la Torah que justement, Adam n'a pas et que la Torah va lui donner, le cas échéant. Alors, on voit de ce que le Satan, quand il a parlé à la femme d'Adam, qui ne s'appelait pas encore Chava à ce moment-là, mais on peut l'appeler Chava déjà, le Satan, il a séduit Chava en lui proposant, ah, on n'a pas de truc là-bas, des échanges de feuilles, comme ça, au marché noir, ça va pas du tout, c'est. Oui, non, mais ça va pas, c'est impossible. Donc, Adam Harishon, il est ce qu'on appelle Tselem Elohim. Il est, disons, à l'image d'Elohim. Qu'est-ce que veut dire à l'image? Ça reste encore à préciser, mais peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse directement maintenant. Mais qu'est-ce que le Satan lui a proposé? Il a proposé, évidemment, il est le Satan, donc il sait très bien qu'il ne peut, il va pas lui proposer les choses qu'elle a déjà. Donc, il va lui proposer ce qu'elle désire, qui est aussi le désir d'Adam. C'est quoi qu'il lui propose? Il lui dit, tu sais, si tu manges des fruits de cet arbre, tu vas devenir comme Elohim, tu vas connaître le bien et le mal. C'est-à-dire, Elohim, c'est celui qui crée des mondes, quoi. Donc, merci. Tu vas créer des mondes. Si tu manges le fruit de cet arbre-là, tu vas créer des mondes. Et ça, c'était les fake news de l'époque, quoi. Et c'était pas vrai. En fait, s'il a fallu manger, des fruits d'un arbre qui donnait quelque chose de plus, c'est de l'autre, c'est du Etz HaChaim qu'il aurait fallu manger. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce que Adam comme Chava désiraient, qui leur manquait donc, c'est la capacité de créer des mondes. Adam Harishon, On nous dit, il était capable de... Alors, peut-être il faut une introduction. Nous pensons... que le monde est créé avec des lettres. Le monde, c'est un agencement de lettres. Les choses sont des agencements de lettres. Donc Adam Harishon, quand il voyait une créature, n'importe quoi créée par Hachem, il savait le nommer parce qu'il savait avec quelle combinaison de lettres il avait été fabriqué. Donc c'était ça son nom. Donc c'est génial, mais ça ne permet pas de construire des mondes. Ça permet de les comprendre. Il peut analyser, mais il ne peut pas créer. Évidemment, puisque c'est la chose qu'il ne peut pas faire, c'est donc la chose qu'il désire. Et c'est comme ça que le Nahash a séduit Chava. Donc, l'idée, c'est que si c'est ça ce qui manque à l'homme, alors c'est ce que la Torah peut lui apporter. La Torah va permettre à l'homme de créer des mondes. Et donc le Rav Volbeck, qui, c'est un shiur que je vous raconte, c'est un shiur qu'il a donné, il disait, il faut pas dire, mais nous, on n'a rien à voir avec ces problèmes de création de monde. Ça nous concerne absolument pas. Mais il disait, c'est pas vrai du tout. On n'arrête pas de faire ça. Seulement, on crée des mondes imaginaires, des mondes selon nos désirs, selon nos envies, etc. Des mondes complètement éphémères. Donc, des créations de mondes, Adam, probablement, il savait en faire. Parce que nous aussi, on en fait. Seulement, ce qu'il savait pas faire, c'est créer des mondes réels, durables. Ça, il ne savait pas faire. Et c'est ça qu'il désirait faire. Et c'est ça qui lui manque. Et donc, c'est la Torah qui peut donner justement les moyens de créer des mondes réels. Comment est-ce qu'on crée des mondes réels? L'homme par lui-même, il ne peut pas le faire. Mais Akadosh Baruch Hu lui a donné un moyen de le faire, non pas, disons, entièrement par lui-même, mais c'est lui qui va le faire.
Tu as
Ce que Hachem lui a donné.
oh, aujourd'hui. Oh, c'est pas grave. Oui, merci.
Ça. Vous avez compris ce qui s'est dit là?
Non.
Ce que l'homme peut faire avec ce qui lui a été donné, bien, ça nous est dit dans Pirkei Avot. Pirkei Avot, on dit Chavivim Israël, les bnei Israël sont chers à Hachem, Shenitan lahem kli chemda. Hachem leur a donné un instrument auquel il tient beaucoup. Et ça continue en disant, Riba yetera, l'homme bénéficie d'un amour supplémentaire. C'est que Kli Chemda Shebo Nivra Haolam.
Riba yetera.
Hein? Riba yetera Nodaat Lahem. Parce que Kli Chemda Shebo Nivra Haolam, c'est ça qui leur a été donné. C'est pas seulement un Kli auquel Hachem crée, tient beaucoup. Mais c'est le Kli, l'ustensile, le moyen utilisé par Hachem pour créer le monde. Et ça, Hachem l'a donné aux hommes. C'est une chose que tout le monde connaît. Bon, tout le monde sait que la Torah, qu'Hachem a créé le monde en regardant la Torah, qui était bien la Torah qu'il avait créée auparavant. Mais c'est en regardant la Torah qu'il a créé un monde. C'est pas que la Torah est la loi adaptée au monde, la meilleure loi, la loi qui colle à la peau du monde, si vous voulez. Pas du tout. Le monde a été créé à partir de la Torah. C'est le contraire, c'est l'inverse.
Hachem a fait son égal complet, absolument.
Oui, c'est ça. Il a fait son. Donc Hachem leur a donné, il a donné aux hommes cette fameuse riba yetera. C'est un amour fabuleux, quoi. Beaucoup plus, encore beaucoup plus grand. Parce que c'est justement ce avec quoi il avait créé le monde qu'il a donné aux hommes. Donc il leur a donné la Torah. La Torah, c'est le moyen de créer le monde, les mondes. C'est quand il a créé le monde, il a créé des mondes. Comment ça fonctionne? Il y a une adéquation, si vous voulez, entre la forme humaine, Tselem Elohim, et la forme de la Torah, c'est-à-dire, vous connaissez bien ça, on dit qu'il y a 248 mitzvot positives, commandement de fais ceci ou fais cela. Et ça correspond à 248 parties du corps humain. Et à 365 mitzvot négatives, c'est-à-dire lo ta'aseh, ne fais pas, qui correspondent à des tendons, à des guilines, des tendons dans le corps humain. Ça correspond aussi au nombre de jours de l'année solaire, mais bon, c'est un autre enseignement. Donc, il y a correspondance, si vous voulez, entre la structure des mitzvot et la structure du corps humain. Et donc, c'est presque un phénomène de résonance, si vous voulez, qui fait que quand l'être humain, en l'occurrence, quand l'Israël, vont faire les mitzvot, positives et négatives, bien, ils vont créer des mondes. Toute mitzvah crée un monde parce que elle crée cette forme qui est le monde a une espèce de forme humaine, si on peut parler comme ça. Des varim spirituels, la mitzvah, elle crée des membres spirituels, des guidim spirituels. L'étude de la Torah et les mitzvot. Donc, avec la Torah, l'homme crée des mondes spirituels. Il crée les mondes, en fait. Alors, c'est juste, c'est un pouvoir absolument incroyable qui a été donné à l'homme. Alors, il y a une chose qui doit être dite, même si, en fait, c'est un peu compliqué de la caractériser, c'est que on dit il faut faire les mitzvot et il faut étudier la Torah. Mais on a vu il y a 2 semaines que il suffit pas d'étudier la Torah. Il faut étudier la Torah avec amal. Il y a ce inyan de Chetiyou, Amelim Batorah, que vous fassiez des efforts dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire, on peut imaginer quelqu'un qui aurait de la facilité à, disons, à apprendre rapidement, mais sans effort, et ça nous, par exemple, tout ce qui est dit comme bénédiction, etc., de celui qui étudie avec Amel, mal, ça ne le touche pas. Le bonhomme, il connaît la Torah, mais bon, il est espèce de dilettante, quoi, qui étudie la Torah, parce que c'est sympa, parce que ça lui plaît, etc. Ou pour d'autres raisons. Mais pas parce que Hachem l'a prescrit et qu'on doit littéralement, il y a une valeur de se défoncer dans l'étude de la Torah. C'est ça la façon correcte d'étudier la Torah pour avoir, par exemple, toutes les bénédictions dont on parle dans Parshat Bechukotay. Donc, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce que veut dire se défoncer, parce que étudier avec beaucoup d'efforts, le problème de ce genre de définition, c'est que c'est pas quantitatif. Or, une mitzvah qui n'est pas quantifiée, c'est difficile. C'est-à-dire, tu dois manger de la matzah. Si on avait dit qu'il faut manger de la matzah à Pessah, ben, on n'aurait pas su est-ce qu'il faut en manger une miette ou est-ce qu'il faut en manger pendant 8 jours jusqu'à plus pouvoir, etc. Non, on a dit un chiot, une mesure. Et quand tu dis Amal à Torah, tu dis pas un chiot, tu dis pas, on aurait pu dire, il faut étudier, je sais pas, 20 heures sur 24. Et alors on aurait su, où j'ai étudié 20 heures, où j'ai pas étudié 20 heures, c'est clair. Mais dire je dois étudier avec un mal, c'est une notion un peu compliquée. Ça laisse le problème un peu ouvert. On voit qu'il faut quelque chose, mais c'est comme si on voulait pas nous le dire, quoi. Visiblement, si la Torah l'a pas dit, et si les Rachamim n'ont pas quantifié la chose après, c'est qu'ils ne voulaient pas le faire. Ils sont aussi intelligents que nous. Ils savent très bien que normalement, une mitzvah, on la quantifie. Sinon, on ne sait pas quand est-ce qu'on s'est acquitté, quand est-ce qu'on sait pas, on n'a pas fait suffisamment. Quand est-ce que tu dois faire de Birkat Hamazon? Est-ce que c'est parce que tu as mangé une bouchée de pain ou, et puis, ou bien il faut manger 500 grammes ou 444 grammes, savoir. Tout ça doit se dire.
Mais les femmes, c'est pareil pour tout. Les efforts, c'est pareil.
Justement, on parle de ça, les efforts. Donc la question de savoir qu'est-ce qui s'appelle un effort, même si il faudrait peut-être le définir en disant qu'il faut produire, je ne sais pas, 50 grammes de sueur par jour, je ne sais pas. Donc c'est juste en passant, c'est pas clair. Et si c'est pas clair, c'est que la Torah ne voulait pas nous dire. Ça veut dire que quelque part il y a une idée de qu'il faut faire des efforts et on n'a jamais fait assez. Alors, il n'y a pas de chiour. Le chiour voudrait dire j'ai plus besoin d'en faire. Quand on dit que il faut manger la grosseur d'une olive de matzah, après ça veut dire j'ai pas besoin d'en manger plus. C'est ça que j'apprends. J'ai mangé, on ne peut pas me dire, tu sais, tu dois encore manger la matzah. Non, j'ai mangé ce qu'il fallait en manger, j'en ai mangé. Et donc, dans le hamal, on ne veut pas nous dire quand. Quelque part, ça veut dire il faut faire des efforts. Combien? Faire des efforts. Donc, c'est jamais fini, quoi. De toute manière, on ne peut pas dire, voilà, j'en ai fait assez. Il n'y a pas de assez dans la Torah. Au sens de, il n'y en a pas fait, il n'y a pas de, j'en ai fait assez dans la Torah.
Et ça veut dire que ça laisse supposer aussi que on peut pas être content, on peut pas se satisfaire, dire que j'ai bien étudié. Donc c'est pas assez.
Oui, c'est la même idée.
Oui,
Ne pas dire j'en ai fait assez.
mais ça donne un côté un peu
Non, mais je peux pas. Il faut pas. On peut très bien être content d'avoir. Là, aujourd'hui, j'ai fait des efforts. On a le droit d'être content d'avoir fait des efforts. On peut dire, j'aurais pu. Qu'on puisse faire mieux. En plus, ça dépend de chacun. Et on peut pas. Ça a aussi un grand avantage, c'est que, comme on dit pas le chiot, on peut pas comparer. Parce que ça dépend. La comparaison, c'est pas un truc toujours très bénéfique parce que ça génère éventuellement de la jalousie aussi. Dans l'étude, on pense que c'est toujours bien de l'émulation, mais pas toujours bien. Donc, à l'homme, il a été donné, juif en l'occurrence, il a été donné la possibilité de créer des mondes, mondes spirituels. Comment? En faisant des mitzvot et en faisant plein d'efforts dans l'étude de la Torah. Il y a encore un autre aspect de ce midrash. On a dit, la Torah ne voulait pas aller avec Adam Arichon, puisqu'il n'avait pas, il n'avait pas réussi l'épreuve. S'il l'avait réussi, la Torah aurait été d'accord d'aller avec lui. Le Ramchal, Moshe Chaim Luxato, dans le Dat Unot, il explique que si Adam Arichon avait réussi l'épreuve, c'est une épreuve qui lui a été proposée. S'il avait réussi l'épreuve, Ayaze Tikkun HaOlam, ça veut dire il aurait réparé le monde. Kol Amal Milchemet Hayetzer Shel Shit Alfin. Tout de suite, on aurait eu les temps messianiques, si vous voulez. Et en plus, il aurait évité que les êtres humains deviennent des mortels. Il a créé immortel, il a été créé immortel, il n'est devenu mortel que par la faute qu'il a faite. Donc on n'aurait pas eu besoin de triatametim, on n'aurait pas eu besoin de résurrection, etc. Alors, il revient à ce moment-là, si c'était comme ça, alors à quoi aurait servi la Torah? C'est-à-dire, dans la situation de Triatam Etim, à quoi sert la Torah? Nous, on comprend que nous avons besoin de Torah. Parce qu'on a un Yetzer Hara, on a un penchant à mal faire le mal. Et il n'y a pas d'autre condiment pour. Vous voyez, vous connaissez l'expression de la Torah, enfin de la Gemara, dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara et il a créé un condiment, une épice avec laquelle on peut manger le Yetzer Hara. Donc il ne s'agit pas de ce Yetzer Hara, il ne s'agit pas du tout de l'éradiquer. Il s'agit de pouvoir le consommer, si on peut parler comme ça. Et la seule épice qui permette de consommer le Yetzer Hara, c'est la Torah. C'était la réponse, en fait, que Moshe Rabbeinu a donné aux Malachim. Donc Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir les Luchot, recevoir la Torah, les malachim s'opposaient, ils ne voulaient pas qu'Hachem laisse descendre la Torah dans le monde, dans un monde de mensonges, etc. Alors Moshe Rabbeinu leur a dit, mais est-ce que vous avez un Yetzer Hara? Nous avons un Yetzer Hara, et on a besoin de Torah, mais vous, les malachim, vous n'avez pas de Yetzer Hara, donc à quoi vous servirait la Torah? Mais sur les temps messianiques, il est dit, Ve'igiu shanim, asher tomar, en li ba'em chefetz. Elu yemot ha-mashiach, shen ba'em lo zkut ve lo chova, zimken ma'ala la Torah, achrei yemot ha-mashiach. U'matzav shel adam ha-rishon, lu amad benisayon. Donc, la fin des temps telle qu'elle est décrite, c'est la description de ce qu'aurait été la condition d'Adam Arishon s'il avait réussi l'épreuve. Et de la même manière qu'on dit que dans les temps messianiques, les temps antérieurs de la vôtre, en tout cas, il n'y aura pas de Yetzer Hara. Et il n'y aura pas de on a bien fait ou on a mal fait. Évidemment, il n'y aura plus, il n'y a plus de mal, donc, il n'y a plus de bien non plus, n'est-ce pas? Ça veut dire. C'est toujours par opposition. Tout ce qu'on aura fait, c'était ce qu'il fallait faire. Et donc, à quoi sert la Torah à Adam Arishon quand il est dans cet état-là? C'est la même question qui revient. Il semble de cela, dit Ravolbé, c'est que nous sommes toujours impressionnés par le fait que la Torah, elle donne accès à des sujets extrêmement importants, fondamentaux, et des grandes choses, à la compréhension de choses fondamentales. Et ici, on apprend, d'une certaine manière, quels sont les sujets, justement, qui sont inclus dans la Torah. Dans une situation où il existe un Yetzer Hara, c'est-à-dire, lorsqu'on est dans une prison où il y a des assassins et des violeurs, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hein, le seul moyen de régler le problème, le seul moyen de régler le problème, c'est la Torah. Et après, Yemot HaMashiach, après les temps messianiques, après Tiamat, la résurrection. Gamsham et l'anneau et la Torah. Donc là-bas aussi, il n'y a que la Torah. Donc on voit que la Torah, elle englobe tous les niveaux, toutes les époques de la création. Quelle que soit l'époque, quels que soient les problèmes, on n'a que la Torah pour faire face. Et avec ça, on peut essayer de comprendre la suite des époques du monde. Pendant la période du Tov Vera, c'est-à-dire les fameux 6000 ans, Israël Salanter écrit qui colle avodat Adam, asher avura banu laolam, tout le travail de l'homme, pour lequel nous sommes venus au monde, nous sommes là pour faire ce travail, ena ela il remet à Yetzer. C'est uniquement la guerre contre le Yetzer. Et l'auteur du Chovot HaLevavot et Avolbe dit que son maître, Rabbi Roucham, Rebbe disait la même chose. Kol Hatzlachatenu Alei Admut, toute notre réussite sur terre, c'est seulement Metziut HaYetzer Vermilchama Negdo. C'est seulement le fait de... Il y a un Yetzer Hara et il faut faire la guerre contre lui. Et s'il n'y avait pas de Yetzer Hara, on aurait dû le créer pour faire la guerre contre lui. Lui, donc le Yetzer Hara, c'est la... C'est la force qui nous oblige à grandir, en fait. On ne grandit qu'en s'opposant au Yetzer Hara. Comme il dit, tous les grands qui sont élevés, qui sont arrivés, je sais pas, au niveau du Chafetz Chaim, du Chazon Ish, ou des grands maîtres, des générations, bon, antérieure. Et si on peut aller jusqu'à remonter jusqu'à Abraham Avinu, leur élévation, ils sont devenus grands comment? Ils n'auraient pas pu. Ils sont devenus grands parce qu'ils ont fait la guerre contre leur Yetzer Hara. Sans cette guerre, sans qu'ils, s'il n'y avait pas eu le Yetzer Hara parmi eux, en eux, ce qui les a poussés à grandir en Torah. Parce que Hachem a dit, Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, dit Hachem, et j'ai créé aussi la Torah comme l'épice avec laquelle on peut consommer ce Yetzer Hara. Un instant, celui qui réfléchit, il comprend du seul fait qu'il existe ce Yetzer Hara que il est là que pour, évidemment, nous pousser à la Torah. Et même un homme comme nous, pas comme ces grands maîtres dont on a parlé, il doit pas avoir peur de ce que il y a un Yetzer Hara qui l'attaque. Il faut pas du tout désespérer de la Torah. Arrêtez de l'étudier parce que le Yetzer Hara m'attaque. Je peux pas étudier la Torah. Pour l'instant, le Yetzer Hara m'attaque et je suis en train de succomber. Je tombe trop facilement. C'est le contraire de ce qui est. C'est pas ça du tout qui est le projet divin. Le Yetzer Hara, il est en vérité ce qui génère la soif et la faim de la Torah. Ephraïm. Et donc, si on abandonne la lutte contre le Yetzer Hara, on n'a rien gagné. Et c'est ça si vous voulez, la situation et le lieu de ce qu'on appelle la Bechira, c'est-à-dire du libre choix. C'est comprendre vraiment ce que c'est que le Yetzer Hara. Entendre cette chose un peu surprenante, que le Yetzer Hara, c'est avant tout, comme il l'a dit ici, une soif et une faim de Torah. J'ai soif de Torah, j'ai faim de Torah. Sauf que l'homme, puisqu'il a la possibilité de choisir, il peut malheureusement aussi, enfin c'est pas malheureux, mais c'est comme ça, il peut malheureusement aussi choisir de suivre le Yetzer Hara et pas de développer la Torah pour faire face au Yetzer Hara. Et donc, quelque part, en suivant le Yetzer Hara, il a, d'une certaine manière, il a fait échouer le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il a été créé pour être vaincu. Lui, il veut être vaincu, pardon. Mais il veut vraiment être vaincu après s'être vraiment battu. Il n'a pas le droit de nous faire la courte échelle pour qu'on y arrive plus facilement sans passer par la guerre contre le Yetzer Hara. Quand l'ange d'Ésaü, celui de Sarah, a lutté contre Yaakov et que le matin est arrivé, et que donc la lutte était finie, puisque c'était une lutte qui devait durer la nuit seulement, alors il lui a dit, laisse-moi partir, j'ai terminé. J'ai fini, j'ai fait mon job. Mon job, c'était essayer de te faire tomber. J'ai pas réussi, super, j'ai pas réussi. Je me suis battu de toutes mes forces et je suis évidemment très content de ne pas avoir réussi. Le Yetzer Hara, quand il a fini, mais sauf, c'est un malheur d'Hachem. Alors il a un mauvais rôle, quoi, si on peut parler comme ça. Bon, ben, je vais pas demander son avis. Il a un mauvais rôle, mais au fond de lui-même, il est content quand on l'a battu, il n'a pas réussi à nous faire tomber. Et voilà, super. Il y a quelqu'un qui est, voilà, ça grandit la Torah, ça grandit l'amour d'Hachem, etc. Je donne un exemple. Vous avez un enfant, il n'a pas mangé son repas de midi. Mais bon, il commence à avoir faim. Il va vers sa mère et il dit, maman, donne-moi un bonbon. Hein? Maman, donne-moi un bonbon. Après, il vient et dit, maman, donne-moi du chocolat. Maman, achète-moi une glace. Achète-moi un coca. C'est pas écrit coca. La mère, elle comprend très bien que ça vient du fait que l'enfant a faim, il n'a pas mangé. Mais l'enfant, il ne sait pas du tout que son envie de bonbons, etc., vient de ce que il n'a pas mangé le repas de midi. Et que la faim, elle s'exprime comme un désir de toutes sortes de friandises, etc. Il ne sait pas que, en vérité, pour exprimer la faim de la bonne manière, il faudrait vouloir manger la soupe et le pain. Ça, on est censé être adulte pour comprendre ça. Dans le spirituel, c'est la même chose. L'essence de Yetzer Hara, c'est d'être, comme on a dit, c'est une faim de Torah, soif de Torah. Sauf que le Yetzer Hara, il s'exprime sous la forme de ta'avot, etc., de désirs multiples. C'est-à-dire, d'avodes, de jouissances de ceci ou de cela. Et il faut être un grand homme, comprendre quelle est la vraie source de cette tava, de ce désir de quelque chose d'interdit éventuellement. Arriver à comprendre qu'en réalité, ce désir de quelque chose d'interdit, c'est une soif de Torah. Et qu'en vérité, sans Torah, il n'arrivera jamais à être rassasié. C'est marqué Imraham Sonacha. Si ton ennemi a faim, Achille ou Lechem, donne-lui à manger du pain. Le pain, c'est l'achma shel Torah. C'est la guerre de la Torah. Enfin, c'est le Lechem et la Milchama. C'est la même racine, n'est-ce pas? Parce que c'est de Torah qu'il a faim. Évidemment, quand on parle de l'ennemi de l'homme, c'est le Yetzer Hara. Les tzadikim, évidemment, de toutes les époques, ils ont compris ça. C'est quand leur Yetzer Hara les attaquait. Alors, ils comprenaient que ça venait les aider à grandir en Torah. Parce qu'ils savaient qu'est-ce qu'il y avait au fond vraiment du Yetzer Hara. Ils savaient qu'au fond, c'est jamais que un désir, une faim de Torah. Et que seule la Torah le rassasierait. Mais c'est ça la force, l'époque de la Bechira, au choisir. L'homme a le choix. Il peut suivre effectivement les désirs de son cœur. Il peut aller sans limite dans la direction indiquée par son Yetzera. Et en fait, ce que l'homme doit arriver à faire, c'est arriver à reconnaître le Hémet, la vérité, et à faire de son Yetzer Hara un accélérateur de Torah, quoi. Mais après la période qu'il a appelé la période ici de la Bechira, la période du choix. C'est-à-dire, on a le choix entre le Tov et le Ra. C'est-à-dire, quand on arrive proche des temps messianiques, la fin de Torah, elle va frapper tout le clan d'Israël. Et c'est ça tout le processus des fameux 6000 ans. Parce que le pouvoir du mal va être contesté par le mal lui-même, en fait. Tout le monde va reconnaître que ce que le mal construit, c'est en fait une destruction. Présente les choses comme une construction, en fait c'est une destruction. Et que sans Torah, sans le Boréolam, le maître du monde, créateur du monde, i efchar lo livnot olam velo lichiot chayei Hashem. On peut ni construire le monde, ni vivre une vie vraiment heureuse. Et bien, Kvitat de Meshichat, dans les temps pré-messianiques, ça se manifestera de plus en plus, au point que tout le monde va quasiment toucher du doigt, en fait, que en faisant le, en choisissant le mal, en s'éloignant du Créateur, tous les essais de construction mènent exactement au contraire. Et on verra que le mal, le chat en fait, il n'a aucun pouvoir, aucune valeur. Le Rambam, il parle de la réinstauration de ce qu'on appelle la Smicha et du Sanhédrin. Dans la Torah, un maître devient un maître quand son maître lui a dit qu'il le devenait. Ça s'appelle la Smicha. C'est-à-dire, quelque part, le maître donne un peu de son pouvoir de décision à son élève. Il pense, voilà, tu es arrivé à un moment où tu vas pouvoir décider et guider les autres tout seul. Tu n'as plus besoin de, tu n'auras plus besoin absolument de moi. Il lui donne ce qu'on appelle smicha. Et donc, si vous voulez, ça assurait une transmission de la Torah, de la direction des Juifs par, enfin du peuple par la Torah, et les maîtres qui avaient reçu la Smicha, eux seuls avaient le droit de juger toutes les questions. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de Smicha. On donne une Smicha, mais c'est plus du tout une Smicha, parce que la Smicha initiale, c'était une Smicha qui permettait de remonter à la source, quasiment. On pouvait remonter jusqu'à Moshe Rabbeinu. Moshe qui a permis à Yoshua, Yoshua, Zkenim, etc. Et de proche en proche, on arrivait jusqu'à un certain moment. Mais à un moment, il est arrivé un moment où les Romains ont fait beaucoup de problèmes. Ils ont tué beaucoup, beaucoup de monde. Et on n'a plus réussi à assurer une smicha. Alors, c'est très important, parce que si on n'a pas de smicha, on n'a pas vraiment d'autorité. Par exemple, je ne vais pas entrer là-dedans en détail, mais dans la Torah, la Torah, elle a dit que si quelqu'un vole, a volé B, il lui a volé une poule, faire un canard. Il a volé une poule et on l'a trouvée. On l'a trouvée, on l'a convaincue. C'est un voleur. Alors, la Torah, elle dit, voilà, il va devoir rembourser, évidemment, s'il a mangé la poule. Non. S'il a la poule, il faut qu'il la restitue. Et on va lui mettre une amende dont le montant sera la valeur de la poule qu'il avait volée. Donc, si la poule qu'il avait volée, elle vaut 100, donc il va redonner la poule ou son équivalent, et il va devoir donner en tout 100 plus 100. Mais les deux 100 n'ont pas le même sens. Le premier 100, c'est la contre-valeur de la chose qu'il a volée. Le deuxième, c'est une amende. Bon, tu es un vilain garçon, tu t'as mis à l'amende. Bon, il faut que ce soit clair, c'est la même chose pour les filles, hein. Même tarif. Et cette amende-là, si vous voulez, c'est de l'argent que le tribunal va prendre à quelqu'un Et on va le donner d'ailleurs à la personne lésée, à la personne qui avait été volée.
La main aussi.
Le deuxième sang aussi. Et ça s'appelle une amende. C'est une amende parce que ça ne correspond pas à un dommage. Le dommage, il a été compensé par les premiers sangs. Et ça, donner une amende à quelqu'un, c'est lui prendre son argent. Seul un tribunal composé de gens qui ont la smicha peut le faire. Aujourd'hui, un tribunal ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, un tribunal rabbinique peut obliger quelqu'un à rembourser le dommage qu'il a causé, mais il ne peut pas mettre quelqu'un à l'amende. Il n'a pas ce pouvoir de lui prendre son argent. Alors, je vous donnais ce petit exemple, mais il y a plein d'exemples que si on n'est pas, on n'a pas de smicha, on ne peut pas agir. Si vous voulez, ça ne permet pas vraiment de gouverner la société, de dire, si on n'a pas d'autres moyens. Alors, OK. Alors, il y a eu une discussion à l'époque du Shulchan Aruch, c'est-à-dire il y a 500 ans à peu près. Il y a eu une discussion entre les sages de Yerushalayim et les sages de la Galilée de Tzfat. Et bien, Machloket, est-ce qu'on peut recommencer la Smicha? C'est-à-dire, est-ce que un grand rabbe aujourd'hui peut recommencer la chaîne? Il va donner la smicha à son élève, etc. Il peut recommencer. Donc, il y a une discussion. Il y a ceux qui disaient qu'on a le droit, ceux qui disaient qu'on n'a pas le droit. On peut pas. Il y a ceux qui disaient on peut recommencer maintenant. Et ça aura la bonne valeur. Il sera vraiment samour. Ils vont pouvoir décider. Finalement, ça n'a pas marché. Hein. Ceux qui voulaient recommencer, ça c'est pas fait. Il y a quelques personnes qui ont reçu la smicha par ceux qui voulaient la donner, mais ça n'a pas pris en quelque sorte. Et de même, il y a le problème de est-ce qu'on peut reconstituer un Sanhédrin? Le Sanhédrin, c'est cette instance suprême, enfin plus importante, qui va permettre éventuellement de prendre des grandes décisions. Et ça aussi, ça fait l'objet du même type de discussion. Peut, on peut pas. Alors le Rambam, sur ce sujet-là, il écrit « Sheim lo tomar ken » Si tu ne dis pas qu'on peut refaire la smicha, il est Maïmonide, Rambam.
Il était intervenu en cette période-là.
Quoi?
Ah,
Oui, non, lui, la question était déjà posée avant. Je vous ai dit, ça a fait une grande marloquette après, mais la question était posée depuis qu'il n'y a plus, justement, il y a toujours eu des gens qui voulaient recommencer. Alors, le Rambam dit, Sheim lo tomar ken, Sheyuchal lismor. Si tu ne dis pas qu'on peut être sommaire. Alors, Iefchar, Shetimatse, Beddin Agadol, Leolam. Donc c'est fini, on n'aura plus jamais le grand Sanhédrin. Terminé, le grand Beddin. Puisque maintenant ça a été coupé, et plus jamais. Or, Akash Yaïd, Shiyashuvu, Kmoshenemar, Vashima Shoftecha, Kevarishona, Kevatrila, c'est presque le nusach de la fila, que se dit la deuxième personne. C'est-à-dire, je remettrait en place tes juges, comme auparavant, et tes conseillers, comme au début. Acharechen, ikarelecha, ira tzedek. À ce moment-là, Yerushalayim, on t'appellera la ville de la justice, parce qu'on aura remis en place le système de justice. Et Et ça, ce sera bien sûr, aucun doute, que ce sera quand Akadosh Baruch Hu aura cachérisé, c'est-à-dire il aura fait en sorte que les cœurs des gens sont devenus cachers, c'est-à-dire les gens sont améliorés, et ils font beaucoup de bonnes choses. Tigdal tshukatam l'Hachem, et leur désir d'Hachem va grandir, désir pour Hachem et pour sa Torah, et ils vont devenir de plus en plus droits, en fait. L'ifnei bo ha-Mashiach, tout ça avant que n'arrive le Mashiach, que mo shenit ba'er ze be psukei ha-Mikra, comme c'est décrit dans les versets du texte. Donc, le Rambam dit, sur cette période justement, on dit, c'est le passage, vous le connaissez, Iné yamim ba'im, voici des jours viennent, ces paroles d'Hachem Elohim, Vishlafti Rav Baharetz, et j'enverrai la famine dans le pays, l'orav l'alechem. Mais pas une famine de pain. De l'eau, ça met la maïm. Et pas une soif d'eau. Mais plutôt une famine, enfin une faim et une soif d'entendre la parole d'Hachem. Ravze yavi le ribouï Torah, b'chachamim, akde smicha. Et cette fin, elle amènera un développement de la Torah et des Chachamim et des sages jusqu'à ce qu'on puisse effectivement rétablir la Smicha et le Sanhedrin. Et à ce moment-là, tout le monde verra concrètement qu'Ibli Torah, En Chayim, Ven Olam, Ven Binyan. Tout le monde verra que sans Torah, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de construction. La famine de Torah, ce n'est pas quelque chose d'annexe, en quelque sorte, de secondaire. Il ne peut pas y avoir ni de Torah, ni de Tfila sans cette famine. Parce que qu'est-ce que c'est la prière, la Tfila? C'est crier le nom d'Hachem, en fait. Dire le nom d'Hachem. Pourquoi on dit le nom d'Hachem? Parce qu'on réfléchit, on regarde ce qui se passe dans le monde, on voit, on s'aperçoit que Shoresh Kol Amarin Hu Arichuk Hashem, que la source de tous les maux, M-A-U-X, c'est le fait d'être éloigné d'Hashem. C'est pas les gens les plus légers qui vont pouvoir courir. C'est pas les médecins qui vont guérir. C'est pas les politiciens qui vont réussir. Le monde, il a plein de malheurs. Personne n'est là pour le sauver. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque ce qu'on appelle Chalut Shem Shamayim Baolam. Il manque la présence, la marque du nom divin dans le monde. En ce qui concerne la Torah, c'est évident que ce à quoi on accède grâce à la Torah, ça n'est que par justement ce fameux amal, ce fameux effort C'est la yegia, ça, d'autres mots pour les notions d'effort aussi. En fonction de la fin en question, de la fin, avoir faim de la parole d'Hachem, qu'il y a au fond du cœur de l'homme, et qui, si on étudie de façon simplement par l'habitude, quelque part, on fait des mitzvot parce qu'on a l'habitude de les faire, on les fait, okay. On n'arrive à rien de tout ça, ce que je vous avais dit avant. L'ifnei ba Mashiach, avant que ne vienne le Mashiach, le Messie, cette période s'appelle Ikveta de Meshicha, c'est-à-dire les pas du Messie, oui. Il est en train de venir. Idbarer le enkol, il se clarifiera pour tout le monde. Imalech inyanea olam atzmo, en regardant le fonctionnement du monde lui-même, qui blit Torah ou blit Shem Hashem, en binyan ve'en chaim ba'olam. Tout le monde verra bien que sans le nom d'Hashem, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de vie dans le monde. Ve'akarazu, et cette reconnaissance-là, elle amènera le dévoilement du Mashiach. Et au temps messianique, alors cette reconnaissance-là, elle va devenir naturelle chez tout homme. Le Rambam, quand il parle dans les halakhot de Tshuva, il parle sur la Siyata d'Ishmaïa, c'est-à-dire la bracha dans la Torah. Et le sujet, comme on dit, que c'est-à-dire on mange les fruits, mais le capital, le tronc, l'arbre, il reste pour Olam Haba. C'est ça que tout le monde a espérer, que tout le monde a désiré dans le Israël. Les Nevi'im, les Chachamim ont attendu ces temps messianiques. Parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir se consacrer à l'étude de la Torah en étant complètement serein. Et grâce à l'étude de la Torah, on accédera à ce fameux monde à venir. Voilà ma barre. Il faut essayer de comprendre c'est quoi la définition de ce mérite-là. Hazal ont dit que bimot ha-mashiach en ba'em lo zchut velo chova. Ils ont dit que au temps messianique, on n'aura ni zchut ni chova, c'est-à-dire on sera, il n'y a pas de récompense, il n'y aura pas de sanction non plus. Et pourtant, tu dis que grâce à cette étude de la Torah qui est faite de façon sereine, on accédera, Yizku, on aura le mérite d'accéder à Olam Haba. Et tu on vient de dire qu'autant, mais qu'il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de Yetzirah, il n'y a rien à vaincre, donc il n'y a pas de mérite. Alors on peut essayer d'expliquer les paroles du Rambam en utilisant les paroles du Ramban sur ce sujet. Il y a un passouk qui dit Umal Hashem Elokecha et Levavcha. Vous voulez. En Parshat Nitzavim, le passouk dit Akadosh Baruch Hu va circoncire ton cœur. La circoncision, ça consiste à enlever, l'idée c'est d'enlever quelque chose, enlever un écran, enlever quelque chose qui empêche d'arriver à l'essentiel. Circoncire le cœur, ça veut dire que c'est comme s'il y avait une couche de ce que vous voulez, de graisse ou n'importe quoi, autour du cœur, qui fait qu'on ne peut pas accéder au cœur. C'est-à-dire que quelque part, La personne n'aura pas la sensibilité qu'elle pourrait manifester si on arrivait à toucher son cœur, parce qu'on ne touche pas le cœur, alors il y aurait une forme d'indifférence à la souffrance de l'autre, par exemple, parce qu'ils ne sont pas touchés à cœur. Ça, c'est la notion de circoncire, c'est enlever cet écran. Alors, Chazal disent, Zéhou, chez Amrou, qui abat le taer, le saïnoto. Valimot Amashiach, tiye aprira betov, lahem beteva. Voilà ce que dit Ramban. Romain dit, ce verset-là de la circoncision du cœur, si c'est Hachem qui le fait, alors c'est, a priori, c'est moi qui devrais enlever cet écran. C'est mon job. Comment ça se fait que c'est Hachem qui le fait? Chazal disent, ce que cite le Ramban, celui qui vient pour bien faire, on l'aide. Ça veut dire Hachem l'aide. D'une certaine manière, on ne peut pas faire les choses tout seul. Choses sont en elles-mêmes trop difficiles à faire, mais si tu viens avec dans une démarche de bien faire, Hachem va t'aider. Et c'est ça la circoncision. Hachem va enlever cette couche de cet écran qu'il y a devant ton cœur. Ça, c'est, dit Ramban, ça c'est vrai en temps normal. Mais au temps messianique, les gens vont faire le bien naturellement. Et par conséquent, il n'y aura pas besoin d'aide. C'est devenu leur nature. Alors, le Ravolbe, il dit, écoute bien ce qu'il écrit. Il ne dit pas qu'ils vont faire obligatoirement le bien. Il dit qu'on va faire le bien naturellement. Le choix se fera naturellement. Alors, il dit, on peut essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est quoi la différence entre on sera obligé de faire le bien, on va faire le bien naturellement. On va choisir naturellement le bien. Il veut dire comme ça. Même au temps messianique, il y aura à choisir le bien. Parce que bien sûr, on ne peut pas comprendre le verset qui dit Imala haaretz dea et Hashem maim layam b'chasim sheze yeh mitoch mitzvot anashim melumada mitoch shigra le b'Torah klum. Toujours ce qu'on avait dit, il avait déjà dit ça un peu plus haut. Il est clair. Le verset, il dit, au temps messianique, la connaissance d'Hachem, elle va être tellement répandue, à peu près comme l'eau de la mer qui recouvre la mer, quoi, qui recouvre le fond des mers. On ne peut pas penser, dit Ravolbe, que ça va se faire de façon sans qu'il y ait sans qu'il y ait un désir, une fin de la parole d'Hachem. Parce que si on fait les choses machinalement, en quelque sorte, on ne voit rien dans la Torah. Donc, il ne peut pas y avoir du date partout, du discernement, de l'intelligence partout. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, il faut l'expliquer comme ça, deux points. Au temps messianique, il y aura cette faim et cette soif de parole d'Hachem qui va devenir une nature. C'est-à-dire, les gens ne supporteront pas de ne pas s'occuper de Torah. Comme chez nous, la faim par rapport à la nourriture matérielle, on ne peut pas s'empêcher de manger. Donc la faim et la soif pour le Dvar Hashem, qui va s'amasser, qui va se développer au fur et à mesure des années, durant les fameux 6000 ans, ça ne va pas disparaître, même quand le Mashiach va venir. Mais au contraire, ça va devenir la nature de l'homme au temps messianique et pour l'éternité. Donc, il y aura en permanence devant l'homme la connaissance, le savoir que Chaim ve'olam bli Torah, c'est Churban u'mita. Yevchar bli Torah. Que la vie, le monde sans la Torah, c'est une destruction, c'est la mort. On ne peut pas faire l'économie de la Torah. Et bien sûr que le mérite de choisir entre le bien et le mal dans la guerre contre le Yetzer Hara, ça n'aura plus lieu au temps messianique. Puisque le Yetzer Hara, il aura disparu. Mais le mérite de la Torah. Et ça va rester. Parce que la Torah, elle va pas disparaître parce que le Yetzer Hara a disparu. C'est vrai que la Torah est l'épice avec laquelle on peut consommer le Yetzer Hara, mais elle n'a pas partie liée avec l'existence du Yetzer Hara. On ne peut pas dire qu'elle n'existe que quand le Yetzer Hara existe. Ça veut dire qu'elle n'est pas là que pour lutter contre enfin pour consommer, donc pour lutter contre le Yetzer Hara. C'est un niveau qui s'appelle Amekayem et Torah Meoni, Sopo, le Kaima Meosher. Celui qui respecte la Torah dans la pauvreté, finalement, il va la respecter dans la richesse. Ça fait partie de ce qu'on appelle la siyata dishmaya, l'aide du ciel. Donc, on a dit sur le Abba Letaer, celui qui veut bien faire. Étant messianique, effectivement, ça sera une époque d'aide, l'aide du ciel. Et ça fait partie de la définition de l'aide du ciel que à Keren Kayemet le Olam Haba, qu'on mange les fruits, mais le capital reste pour Olam Haba. C'est-à-dire, il n'y a pas d'absence de mérite. Le mérite de l'étude de la Torah, il est là, en permanence. Et c'est ça le fonctionnement du monde, des différentes époques. Au départ, il faut faire la guerre contre les Tsaras. Il faut donc résister à réussir les épreuves. Il faut accéder à la Torah, bien que ce soit difficile, bien que les Tsaras luttent pour qu'on ne le fasse pas. Et grâce à cela, au niveau individuel et au niveau collectif, on acquiert cette aide du ciel. Ça va enlever le Yetzirah et il reste la soif de Torah naturelle dans l'homme. À ce moment-là, l'homme, il espère, il désire la sérénité des temps messianiques qui va lui permettre de s'occuper de Torah sans problème, sans être jamais dérangé. Et c'est pour ça que Rambam a dit que tout Israël, c'est-à-dire ses prophètes et ses sages, ont désiré les temps messianiques. C'est-à-dire, de qui est-ce qu'on parle? On parle particulièrement de ceux qui ont déjà réussi dans le Abak, etc., dans la guerre contre les Yetzirah, qui sont arrivés à un haut niveau, et leur cœur, bon, il est. En fait, il est libéré de toutes les tavotes, de toutes les recherches, de désirs sortes négatifs. Donc, ces gens-là, justement, c'est eux qui ont soif. C'est eux qui veulent. C'est eux qui ont envie d'avoir ces temps messianiques. Le petit peuple, en limite, le Meratzim, en fait, ils sont encore dans la guerre du Yetzerara. Quand eux, ils ont envie des temps messianiques, c'est seulement parce qu'ils se sentent trop faibles dans la guerre. Et en fait, ils voudraient échapper à la guerre. C'est-à-dire qu'on passe à une époque où il n'y a plus de guerre. Donc on comprend avec ça, hein, ce que disait Rabbi Israël Salanter, qui disait, pas comme on a l'habitude de dire, mais « Manaaseh im machar yavo haMashiach ». Qu'est-ce qu'on va faire si demain le Mashiach arrive? Velo gamarnu avodateinu betikon miloteinu. Et on n'a pas terminé d'arranger nos midot, travailler sur nos défauts, etc. On va être confus, on va avoir honte. Parce que, d'après ce qu'on vient de dire, c'est vrai que seuls les prophètes, les sages, eux désirent vraiment les temps messianiques pour la bonne raison, en fait. Parce que eux, ils ont atteint un niveau où ils vont avoir la Siyata Nishmaya, l'aide du ciel, alors que nous, simples Pékin, quoi, nous, on est encore dans la guerre contre les Tserara. Et si on ne gagne pas la guerre contre les Tserara, alors ça n'ouvre pas le chemin vers les temps messianiques.
On ne dit pas dans la Mida qu'on veut faire partie, on veut partager le salaire
Avec eux, les salikim. Oui.
En plus, pour ne pas avoir honte, c'est qu'on veut pouvoir s'appuyer sur
On demande que notre part soit, on dit, on peut aussi le lire simplement, que nous on soit aussi dans cette, dans ce groupe-là. Sim c'est pas on va être des parasites qui vont aussi profiter de, mais que nous on fasse partie. Demande à Hachem, l'ancien talisman, qu'Hachem nous aide à faire partie de ceux qui, de droit, sont là-bas. Pas que obligatoirement on le mérite pas, mais on demande un passe-droit. Pas que c'est comme ça qu'il faut le lire.
On a à faire partie de leur.
Sim chalkein oui ma'em dit que notre part soit avec la leur.
Du coup, pourquoi est-ce qu'on demande aussi, on appellerait cette harmonie d'Hachem pour pouvoir.
Tout le monde a besoin de chesed et de rachamim, c'est la siyata nishmaya. Toujours de l'aide, on demande à Hachem.
On parle de honte aussi.
Pardon?
Pourquoi on parle de honte aussi?
Oui, donc, pour que nous n'ayons pas honte. Parce que si jamais les temps messianiques arrivent et que nous, ben, on ne s'est pas qualifié, quoi. On va avoir honte de ne pas qualifié, quoi. Donc même au temps messianique, même à l'époque de Triat HaMetim, il y a la Torah, parce que sans Torah, ça n'existe pas un monde sans Torah. Si vous voulez, le monde ayant été créé d'après la Torah est toujours présente dans le monde. Moment de Matan Torah, pour le clan d'Israël, c'est d'une certaine manière Yemot HaMashiach. Parce que, au moment du don de la Torah, Paskas HaMatan, ça veut dire la trace de la faute d'Adam a disparu. C'est-à-dire, Yetzirah n'existait plus. Et donc, quelque part, il s'agit d'essayer de vivre ce moment de Matan Torah. Quand on dit, pour nous, c'est pas que le Yetzer Hara n'existe plus complètement, mais qu'on se libère de la fausse vision qu'on a du Yetzer Hara. On se rappelle que le Yetzer Hara, il est là pour nous inciter à grandir en Torah. C'est la leçon de Shavuot, matin de Torah, si on dit que c'est prina de un aspect Yemot HaMashiach, alors c'est de ça qu'il s'agit. C'est bien de savoir, bien, Yemot HaMashiach, le Yetzara a disparu. Alors peut-être pour nous, faut comprendre, il n'a pas complètement disparu, mais il faut s'entraîner à comprendre et à vivre en fonction de ça. L'Yetzara est en fait un accélérateur de, comme on a dit, de qui nous permet de grandir en Torah. C'est ça le limoud de Matan Torah.
Et quand on est constamment nourri en Torah par le limud d'autres personnes, qu'est-ce qu'on a comme c'est le niveau et que c'est le
Ah
amour
bon, oui. On est nourri en Torah par le limoud d'autres.
par l'effort, justement par ce amal batora de nos rabbanim, on croit.
Mais ça doit être inspirant.
Et cette part, qu'est-ce qu'on a de cette part? Cette part, on soit nous-mêmes Amal Batora?
Chacun a sa manière de faire des efforts dans la Torah. C'est les efforts, bien sûr, c'est surtout dans l'étude de la Torah que on demande des efforts parce que les mitzvot, on n'a pas besoin de dire que ça demande des efforts. Je veux dire, c'est évident que faire les mitzvot, souvent, ça demande des efforts. Dans l'étude de la Torah, on veut dire, c'est seulement si tu fais des efforts, tu étudies la Torah comme ça du bout des lèvres, ça n'a aucune valeur. Et les mitzvot aussi, si on les fait comme ça du bout des lèvres, ça n'a pas beaucoup de valeur. Je l'ai dit aussi là. Donc peut-être Amal, dans les mitzvot aussi, c'est regarder, faire les mitzvot, les faire bien, en s'investissant et en sachant, en vérité, on fait quelque chose de très important. On se fait des mondes, en fait. Bien sûr, on ne connaît pas le détail de ces constructions. Mais notre émouna, c'est qu'on sait que ça construit le monde. Les mondes, en fait.
Et alors, le désir d'Adam et Chava, ce fameux désir de construire des mondes,
Parce que c'était leur manque. Leur désir vient de ce que Hachem a fait en sorte qu'effectivement, ils aient envie de construire. Mais ils ont mal choisi. Ils ont compris, oui, il faut construire des mondes. Et puis ils ont écouté la magie, en quelque sorte, le côté magique. Tu veux manger là et automatiquement. Il y a plein de choses aujourd'hui où on dit, tu fais ça, tu vas. Évidemment. En tout cas, c'est de la magie, quoi. Les bains de pied qui guérissent du cancer, c'est. Voilà. Il reste à vous souhaiter avec sa mère.